En tout cas, c'est un honneur aussi pour moi d'être devant vous, de vous partager la parole. Donc c'est un honneur, c'est pas tant un stress, mais c'est quelque chose de fort parce qu'on proclame la parole. On sait que ceux qui prêchent la parole seront jugés plus sévèrement, donc c'est pas rien, mais ça reste avant tout un honneur et un privilège pour moi. Donc j'aimerais sans plus attendre qu'on lise le passage. Alors ici il y a la section sur laquelle je vais enseigner ce matin, mais j'aimerais qu'on lise un peu plus haut pour voir le contexte. Donc on se retrouve dans la lettre aux Philippiens, si vous pouvez ouvrir vos Bibles, parce que ça ne sera pas affiché ici. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 12. Donc Philippiens 1, verset 12. Et je vais commencer. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Le verset 21 est très important. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Et donc là, maintenant, on arrive au passage que nous allons voir ce matin. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai avec vous et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà, jusque-là le passage que nous allons voir ce matin. J'aimerais seulement prier avant de commencer. Toi, mon Père éternel, je te remercie pour ce privilège de pouvoir proclamer ta parole. Je te demande de me donner la force, par la puissance de ton esprit, de pouvoir le faire avec pleine conviction, de pouvoir le faire avec humilité, sagesse. Je te demande aussi que ta parole touche nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous pousse à t'adorer, à adorer ton saint nom, à adorer ta gloire, à voir ta sainteté, Seigneur, et à être bousculé, transformé par qui tu es et par ce que tu as dit, Seigneur, par la bouche de tes apôtres. Je te remercie pour le privilège que nous avons d'ouvrir ta parole, de nous mettre tous ensemble à son écoute. Je te remercie pour cela, Seigneur. Aide-nous à toujours mieux la comprendre, à mieux la comprendre ce matin. Au nom de Jésus, amen. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des grosses hésitations entre deux choses, des tensions dans votre cœur pour un choix ou un autre. Alors je ne vous parle pas, pardon, je vous parle pas d'un choix, d'une hésitation entre un article ou un autre, par exemple dans un magasin, pour savoir ce que vous allez choisir, par exemple à la Manor ou même à Migros, pour ceux qui sont en France, à Leclerc ou que sais-je. Non, je vous parle d'un vrai tiraillement que vous avez vécu. Par exemple, après une semaine de travail, on peut être épuisé. Il y a une partie de nous qui n'a qu'une envie, c'est se reposer. Par exemple, nous, après les travaux, on n'a qu'une seule envie, c'est rester dans notre lit et pas bouger. Plus voir personne, on est fatigué. Mais par exemple, on a promis à quelqu'un de l'aider pour un travail ou que sais-je, ou encore autre chose. Et dans ce cas-là, on est tiraillé. Est-ce que je vais quand même aider mon frère? Je lui ai promis. Est-ce que j'annule? Et parfois, on a ces petits tiraillements dans notre cœur. Ou encore un autre. Par exemple, pour venir, même nous, à l'Institut, ou même, par exemple, imaginez un jeune qui veut partir se former à l'étranger ou partir en mission. On peut avoir ce tiraillement entre ce qu'on était en train de faire avant notre départ, même notre famille, par exemple, à qui on devait prendre soin, certains qui avaient des problèmes, et notre volonté de partir, aller à l'Institut, se former. Vous voyez, ce tiraillement entre est-ce que je reste, est-ce que j'y vais, ça peut être dur parfois. S'il y a cette tension entre ce que je voudrais profondément et ce qui est nécessaire, ce que je sais être nécessaire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. On va se plonger dans ce tiraillement que l'apôtre Paul a vécu, ce qu'il nous dit avoir vécu. Donc j'aimerais qu'on lise à présent les... on est deux. Les premiers versets. Donc, mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Bon, vous ferez attention, j'ai mis Tob en haut, donc je me dois de le préciser. Il me semblait que cette version, en tout cas pour le verset 22, était ce qui était le plus proche de ce que l'apôtre Paul voulait dire. Dans ce que nous trouvons dans l'original. Mais les autres versions restent aussi très proches, mais c'est ce qui me paraissait le plus convenable. Et on peut en discuter après, si vous voulez, pour plus d'informations. Donc, dans les versets précédents, on l'a lu tout à l'heure, Paul avait proclamé une vérité puissante. Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Donc pour Paul, le meilleur pour lui était de connaître Christ d'une certaine façon, de façon parfaite, d'être avec lui pleinement. Mais pourquoi? Pourquoi considérer sa propre mort comme un gain, comme un cadeau et même une récompense? Ça fait bizarre d'une certaine façon, on dit comme ça. Mais parce que pour Paul, sa propre vie, à ses yeux, n'était pas ce qui comptait le plus. Sa vie, c'était Christ. Christ lui-même. En fait, pour lui, il n'y avait rien de plus beau que de pouvoir vivre avec son Seigneur de façon parfaite et éternelle. Enfin, pouvoir vivre de façon absolue dans la sainte présence de Dieu. On peut imaginer tout ce que ça implique. Enfin, demeurer avec son Créateur, celui en qui tous nos sentiments sont comblés. Mais alors que tout cela est possible en étant avec Christ au ciel, c'est un gain, selon Paul. Paul exprime tout de même cette tension forte qu'il a dans son cœur. Donc la première, on peut le voir à partir dans le verset 23, il y a le côté de, le verset 22, de vivre ici-bas, de rester sur terre. Et l'autre, verset 23, d'être avec Christ. Il dit de m'en aller et d'être avec Christ. En fait, Paul exprime cette tension forte qu'il ressent au fond de lui-même lorsqu'il dit « Je suis pressé. Je suis pressé des deux côtés. » C'est comme si Paul était tiraillé. Tiré d'un côté par le désir de rejoindre son Seigneur et d'un autre de rester sur terre, de vivre ici-bas. Et donc là même, la seconde 21 traduit même par tiraillé. Si vous lisez habituellement dans la seconde 21, c'est ce qu'elle dit. Donc je suis pressé, je suis tiraillé. Et vous pouvez imaginer, c'est comme un élastique qu'on tend. On le tend d'un côté, et si je le tends de l'autre, vous pouvez imaginer la tension qu'il y a entre les deux. Personnellement, j'ai fait du tir à l'arc, bon, j'en ai pas fait longtemps, mais on s'en rend compte quand on tire, la tension qu'il y a ici, à quel point c'est tendu. Et après, bon, ça lâche et on ressent toute la tension qui s'en va. C'est extrêmement tendu. Donc quand il dit « je suis tiraillé, je suis pressé de décoter », imaginez ce tiraillement qu'il pouvait avoir à l'image de quelqu'un qui tire à l'arc, par exemple, ou qui tire un élastique. Qu'est-ce qui, on peut se poser la question, pouvait avoir un tel poids aux yeux de Paul pour qu'il soit à ce point tiraillé? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui pourrait être assez important pour Paul sur cette terre pour que celui-ci puisse vivre cette tension, ce tiraillement en lui-même? On parle tout de même d'une comparaison, on l'a vu un peu tout à l'heure, je l'ai dit, entre Christ au ciel, un état de plénitude parfaite avec lui, et rester sur terre. Et il y a quand même un écart qui est énorme. Paul répondra à notre interrogation dès le verset 22 lorsqu'il dira « Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. » Un travail fécond. Donc il y en a d'autres traductions qui traduisent par « travail fructueux » ou « porter du fruit ». Bien que Paul, en disant « je ne sais que choisir », ce qui accentue encore plus cette tension, son tiraillement, il savait une chose. Il savait qu'en continuant à rester sur cette terre, non seulement son travail ne serait pas vain, mais en plus son travail allait porter du fruit. Il savait qu'en continuant à travailler pour le Seigneur, par l'intermédiaire de son œuvre envers ses frères et sœurs, cela porterait du fruit. On peut donc mieux saisir ce que Paul vivait, lui qui était pressé, tiraillé des deux côtés, entre ses deux désirs. Il avait d'un côté envie d'être sur terre pour un travail fructueux, un travail qui porte du fruit envers les Philippiens, et d'un autre côté, il avait envie d'être avec Christ au ciel. C'était la raison pour laquelle il était tiraillé. Donc, tension, tiraillement entre vivre avec Christ pleinement, vivre une joie parfaite, vivre dans la sainte présence de Dieu. Plus de péché, plus de douleur, plus de mal, plus de souffrance. Et Paul, il en a vécu des souffrances. Pour rappel, et il le dit tout à l'heure dans la lettre, il est en prison à ce moment-là. On pense même que Paul, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, était même un peu bossu, qui marchait comme ça à cause des nombreuses fois qu'il avait reçu des coups de fouet. Et ça reste dans le corps des coups de fouet. Donc, si je ne me trompe pas, les 5 fois, les 40 coups moins 1. Donc il en a eu pas mal de coups de fouet. On peut imaginer même la douleur qu'il ressentait encore, peut-être dans ces moments-là. Le texte ne le dit pas, c'est une supposition. Mais on peut imaginer que lorsqu'il pense à Christ, alors qu'il est en prison, derrière ses barreaux, il voit ce qu'il gagne, mais il voit aussi ce qu'il perd, donc c'est-à-dire les souffrances qu'il vit. Donc il y a ça, être avec Christ au ciel et être sur terre pour un travail fructueux. Quel serait notre choix? Personnellement, Christ, directement, sans hésitation. Je crois que comme Paul, on aurait dit « j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur ». Mais quel sera le choix de Paul? Qu'est-ce que lui va choisir? Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un petit problème de notes. Elles ont disparu, mais elles arrivent. Donc nous continuons. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc comme je viens de le dire, Paul était en prison où il écrivait cette lettre, et dans l'absolu, il n'avait pas beaucoup de choix, en fait. Il n'avait même pas du tout le choix. Paul ne pouvait pas aller au ciel comme ça en se disant « Tiens, allez, en claquement de doigts, c'est bon, je choisis selon ma volonté. » Mais par contre, on peut comprendre à travers ce qu'il dit là, c'est l'expression de ses désirs les plus profonds, de ses attentes les plus fortes, de ce qu'il ressent intérieurement à ce moment-là. Et puis, finalement, aussi dans l'absolu, Paul finira par rejoindre son Seigneur. Mais au moment où il écrivit cette lettre, bien qu'il eût cette tension en lui-même, il dira « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alors qu'au fond de lui-même, il savait qu'il était meilleur d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, il savait que quelque chose était plus nécessaire à ce moment-là, les Philippiens. En fait, à cause de ses frères et sœurs, il était pour lui plus nécessaire de rester ici-bas. C'était pour lui le choix qu'il fallait faire. Pourquoi ? Pourquoi ce choix-là ? Quels sont les motifs qui ont fait pencher la balance vers la terre ? Certes, les Philippiens, ok. Mais pourquoi préférer demeurer sur cette terre plutôt que d'être avec Christ au ciel, même s'il sait que c'est de loin le meilleur, même s'il est tiraillé ? Pourquoi ? Il parle de cette nécessité. Donc on l'a vu, à cause des Philippiens, mais plus particulièrement, et voilà ce qu'il dira, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Deux choses, votre avancement, et votre joie dans la foi. Paul considérait donc l'avancement et la joie dans la foi des Philippiens comme deux raisons suffisantes, et donc à ce moment-là supérieures, à celle d'être avec Christ. Ce n'était pas le meilleur, de façon similaire à être avec Christ au ciel, mais c'était le choix nécessaire. En fait, d'une certaine façon, Paul voyait les intérêts des autres avant les siens. C'est là l'une des clés qui justifie le choix de l'apôtre. Pour lui, la joie et la croissance des Philippiens à travers leur foi était quelque chose de précieux. Donc, je pense que ça peut nous expliquer, on peut mieux comprendre maintenant les propos de Paul lorsqu'il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Parce qu'il avait ça en tête. Leur avancement et leur joie dans la foi. Il y avait un motif derrière cette nécessité qu'il voyait. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on rentre juste un peu plus en profondeur sur cette notion-là de joie, de foi et d'avancement, et aussi de la raison pour laquelle Paul avait ça à cœur. Je crois tout simplement que le premier motif, c'était l'amour. Paul avait tout simplement beaucoup d'amour pour les Philippiens. Certes, Paul était un homme exceptionnel, un homme passionné, intense dans son engagement. Mais au final, il fait simplement appliquer ce que Jésus demandait, ce que la parole demande. On voit en Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pour cette raison que Paul veut rester ici-bas. C'est parce qu'il aime profondément les Philippiens. Il aime l'Église de Christ, celle pour qui Jésus est mort. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Jésus, parce qu'il ne préférait pas être avec lui. Au contraire, c'est parce qu'il aime tellement Jésus qu'il préfère demeurer sur cette terre. Ça peut être difficile à comprendre, mais c'est vraiment le cas. C'est pourquoi Paul, par amour, afin que ses frères et sœurs en Christ avancent dans leur foi, et par leur joie en Jésus, ils trouvaient nécessaire de rester pour eux. Ensuite, maintenant, voyons leur avancement dans cette foi. Parce qu'il y a avancement et pour votre joie dans la foi. Donc voyons premièrement l'avancement dans la foi. Qu'est-ce que ça signifie ? John MacArthur, que vous avez entendu régulièrement ici, je veux dire à travers les citations, dit ceci concernant cet avancement, il dit c'est l'idée d'avancer malgré les obstacles, d'affronter une résistance continuelle. C'est la notion de continuer de vivre selon l'Évangile, selon ce qu'implique une vie de disciple. On aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, On aime aussi notre prochain. Mais cela est vraiment très lié à la joie, à ce que Paul évoque juste après. Regardez aussi ce que dit un autre commentateur que j'ai pu lire lorsque j'ai étudié ce verset. Il dit « De réels progrès dans la foi se traduiront par une joie authentique dans la foi. » Une joie authentique. Des progrès sans joie sont fallacieux. La joie sans progrès, est contrefaite. Et effectivement, comment pourrions-nous vivre une vie de disciple sans expérimenter la joie en Christ? Ça serait comme dire, moi j'aime une personne, je pense que vous connaissez l'expression, mais je tire la tronche à chaque fois qu'elle vient. Je tente de la fuir, entre guillemets, plus que de se réjouir du temps passé avec elle. En fait, ça ne serait pas de l'amour. Si à chaque fois que je vois quelqu'un qui arrive, je suis là en mode, oh, encore celle-là. C'est pas de l'amour, c'est pas de la joie. On ne pourrait pas progresser dans une vie de disciple fructueuse sans vivre cette joie réelle en Christ. Et comme le dit bien Hansen, si quelqu'un dit avoir une joie en Christ sans progrès tangible dans sa vie de disciple, alors cette joie, ben, elle n'existe pas. Elle est contrefaite. C'est fallacieux, comme il le dit. Ou alors, on ne parle pas d'une joie véritable en Christ. On parle plutôt d'une joie superficielle qui s'appuie sur des choses éphémères, sur des choses superficielles. On peut... Ce n'est pas la joie en Christ dans ce cas-là. Être joyeux, ce qui est bien, est une chose. Être joyeux en Christ en est une autre. Ainsi, je crois qu'il est particulièrement important de bien comprendre cette notion de joie dans la foi. Ce n'est pas seulement un sentiment comme ça que Paul évoque. Oh, c'est important. Parce que pour rappel, pour lui, c'est ce qui semble être nécessaire pour rester sur cette terre pour les Philippiens. On parle d'être avec Christ au ciel et rester sur terre, vivre ici-bas pour les Philippiens. Ce n'est pas rien d'étudier cette joie, de voir pourquoi c'est si important pour l'apôtre. Car sans joie, on le voit avec l'avancement, le progrès, on ne peut pas progresser réellement. Ainsi, si vous me le permettez, on va un peu plus creuser cette notion de joie. Donc, premièrement, il faut noter que Paul demandera plusieurs fois aux Philippiens de se réjouir. Il dira en Philippiens 3:1, « Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le monde, dans les choses éphémères. » Non, dans le Seigneur. Et il continue en Philippiens 4:4, un peu plus loin, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas commun dans les Écritures de voir Paul qui répète quelque chose juste comme ça, mais je le répète, réjouissez-vous. Et on sait que c'est dans le Seigneur. Donc ça ne vient pas comme ça en mode « j'espère qu'il progresse dans la joie, dans la foi ». C'est vraiment quelque chose que Paul avait à cœur, je crois, tout le long de cette lettre. Ce n'est pas pour rien, je pense que certains appellent cette lettre la lettre de la joie, bien qu'elle soit vraiment liée au progrès dans l'Évangile. Mais en fait, Paul voulait tellement que Jésus soit l'objet de la joie des Philippiens, celui qui mérite toute adoration, qu'il était prêt à continuer à travailler auprès de ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent grandir dans cette joie. Expression tangible du progrès dans notre foi, de l'avancement. Mais la question donc peut être la suivante. Pourquoi la joie dans le Seigneur est-il si importante? Pourquoi est-ce que si important de se réjouir en Christ? Pourquoi Paul préfère d'abord œuvrer pour cette raison vis-à-vis des Philippiens? Pourquoi? Parce que c'est facile, on peut dire, mais tiens, réjouis-toi dans le Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Et je crois que la joie est si importante parce qu'elle montre l'expression, notre expression de l'amour que nous avons pour Jésus, de notre satisfaction que nous exprimons en lui. Quelqu'un, vous connaissez sûrement, qui s'appelle John Piper, dit ceci, c'est une expression qui est assez connue, donc là c'est un texte traduit, « Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. » Et après, il continuera, je l'admets, c'est parfois un peu technique ce que dit Piper, Franck est assez d'accord avec ça, mais on apprécie ou pas sa juste valeur, mais il dit ceci en continuant, « Le dessein de Dieu de poursuivre sa propre gloire s'avère être l'amour. Et notre devoir de poursuivre la gloire de Dieu s'avère une quête de la joie. Voilà la solution au problème de l'auto-exaltation de Dieu. Et Piper, il dit pas ça de nulle part. On le voit, hein. Paul demande aux Philippiens de se réjouir dans le Seigneur. Et puis, il y a d'autres passages dans la Bible qui expriment cette relation entre Dieu adoré et la joie. Par exemple, on voit dans le psaume 5:12 qui dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » C'est un fait. Si on aime l'Éternel, on se réjouit en lui. On apprécie sa personne. On l'adore. Et parce qu'on l'adore, il y a une chose qui ressort et s'exprime à travers notre être, à travers nos sentiments, de la joie. Et en fait, lorsqu'on se réjouit en Dieu, d'une certaine façon, lorsqu'on se réjouit en Christ, qu'est-ce que ça met en avant? Ça ne met pas l'être humain en avant. Ça met la personne en qui on se réjouit. Ça met l'Éternel en avant. Ça met sa splendeur, parce qu'on se réjouit en qui il est, on se réjouit en ses attributs. On se réjouit dans sa sainteté. Dans notre cœur bouillonne de joie. Regardez par exemple l'attitude des disciples avant que Jésus aille au ciel. Donc là, je commence. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. On parle de Jésus. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Donc là, on parle d'adoration, on peut voir ça comme honorer quelqu'un. Donc là, probablement, à travers des prières, des chants, une exaltation, en fait, je veux dire, ils exaltaient le Seigneur, ils l'honoraient. Et qu'est-ce qui se passe? Juste après l'avoir adoré, ils étaient dans une grande joie. Et cette joie n'avait pas aucune conséquence, hein. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Voilà une attitude concrète de joie, de l'expression de notre adoration envers Dieu. Les disciples l'ont vécu. Et je ne l'ai pas mis, et j'y pense là, mais et même parfois après la persécution. Hein, ils étaient dans la joie, ils aimaient leur Seigneur, même en souffrant, parce qu'ils suivaient son nom, parce qu'ils suivaient sa personne. C'est comme lorsque deux personnes s'aiment profondément. À cause de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ils en expriment de la joie. Et cela peut se ressentir à travers leur comportement, leurs petites attentions. Je crois qu'il s'agit exactement de la même chose entre nous et Jésus. Si nous l'aimons vraiment, si nous le chérissons, si nous nous délectons en sa personne, nous exprimerons de la joie. Et je crois que cela aura un impact dans nos vies, dans notre attitude. Donc, est-ce que vous comprenez mieux maintenant la raison qui poussait Paul à vouloir rester sur cette terre pour ses frères et sœurs, vivre ici-bas? En résumé, pour glorifier Jésus en rendant ses disciples joyeux en lui. Paul était donc prêt à remettre d'une certaine façon sa propre joie qui serait dans la plénitude lorsqu'on sera avec Christ au ciel, pour celle des autres. Afin que les autres puissent grandir dans la leur, à travers son intermédiaire. Vous pouvez imaginer un vieux médecin qui a exercé longtemps, qui a été fidèle dans son travail. Il a dépassé l'âge de la retraite et il aspire à se reposer. C'est son aspiration, il a travaillé toute sa vie, il a donné, il a travaillé. Mais qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit de nombreuses personnes qui sont encore dans le besoin. Le désert médical, vous imaginez un médecin qui était à la campagne. Je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse, mais en tout cas, à certains endroits en France, c'est vraiment un désert médical. Donc, de nombreux patients vont se retrouver sans médecin, mais aussi des jeunes médecins qui ont besoin de mentors. Il y a des stages quand on fait de la médecine. Alors, malgré sa légitimité de partir à la retraite de ce médecin, c'est comme s'il choisissait de dire « non, je vais rester. Je sais que c'est nécessaire. Je sais que mon engagement peut avoir un impact dans la vie de ceux qui m'entourent. C'est un peu le sacrifice pour le service des autres. C'est une image. Je ne dis pas que chaque médecin qui a envie d'aller à la retraite devrait imiter ce que je dis là, mais on peut imaginer ce que ressentait l'apôtre Paul. C'est d'une certaine façon ce qu'il voulait transmettre aux Philippiens. Bien qu'être avec Christ soit de loin le meilleur, ça nul doute à ce sujet, il préférait être avec eux pour leur avancement et leur joie dans la foi. On peut donc mieux maintenant comprendre son choix. Je fais un peu de répétition, mais son choix allait porter du fruit, travail fructueux, travail fécond. Ce fruit, le progrès, l'avancement et la joie dans la foi des Philippiens, et comme on vient de le voir, à la gloire du Maître. Parce que Christ est l'objet de cette joie, non l'homme, à la gloire de Dieu. Je dois vous avouer une chose, trop souvent, j'ai fait les choses par intérêt personnel. Je vous le confesse. Je prie encore que Dieu transforme mon cœur, afin que je puisse aimer plus les autres, dans leur intérêt, à la gloire de Dieu. Et trop souvent, c'est parfois encore un combat. Même quand on veut aider quelqu'un, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux gagner en aidant cette personne? Mais ça peut être dans les trucs bêtes de la vie quotidienne. Et je me permets de vous adresser, t'adresser aussi cette question. Et toi, et nous, est-ce qu'on est prêt à perdre de notre temps, entre guillemets, de notre énergie pour l'investir dans celui des autres? Pour Paul, ça lui a coûté la persécution. Là, il était en prison au moment où il parlait. Est-ce que nous, on est prêts à passer ce cap pour les autres? Est-ce qu'on est prêt à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres? C'est une question que je me pose encore et je prie. Je pense qu'on peut prier pour ça, que le Seigneur transforme nos cœurs. Et donc Paul continue avec ce dernier verset. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez, à cause de moi, un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc il commence en disant « afin que ». Paul savait que non seulement son retour auprès des Philippiens causerait leur avancement et leur joie dans la foi, mais aussi que cela pourrait augmenter leur fierté en leur Seigneur. Que Christ soit toute leur gloire. Ici, Paul montre qu'il avait espoir finalement de revoir les Philippiens dans le but que ceux-ci se glorifient en Christ. Je dis fierté parce qu'il y a même plusieurs traductions, et je crois que c'est juste, qui traduisent par le mot fierté. Si vous lisez dans la seconde 21, par exemple, elle dit, il ne me semble pas l'avoir mis, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle traduit. C'est-à-dire que Christ soit toute notre gloire, toute notre fierté. Et Paul ne mâche pas ses mots. Il dit un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. La croix, la mort de Christ pour les Philippiens, est-ce que c'est une honte? On l'a lu tout à l'heure, Paul parle de honte, il dit « je n'ai pas honte ». Donc la croix, qu'est-ce que c'est pour les Philippiens? Leur plus grande fierté. La mort et la résurrection, leur plus grande fierté. La personne même de Jésus, leur gloire, leur plus grande fierté. Est-ce qu'on est fier du Seigneur? Est-ce qu'on est fier de ses actes? Est-ce qu'on est fier de sa vie? Est-ce qu'on se réjouit en lui? On est fier, on l'aime, on n'a pas honte de lui. Et cela, comme le dit Paul, dans l'abondance. Pas seulement de temps en temps, quand ça nous plaît, mais c'est une façon constante. Même au travail, partout, on est fier de Jésus, c'est notre maître. C'est Dieu le Tout-Puissant. Et en fait, ça signifie s'approprier Christ au point que notre fierté ne dépend plus des choses de ce monde, de ce qu'on fait, même de nos qualités, de notre travail. Elle dépend de notre Seigneur, de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue à faire. On est fier de lui. On peut même nous insulter, on peut nous dire des choses. On peut remettre en question nos aptitudes, mais nous, ce qui nous rend fiers, ce qui nous atteint, c'est quand on parle de notre Seigneur. On est fier de lui, on l'aime. Et c'est ce que Paul espérait voir dans la vie des Philippiens. Non pas une fierté dans les choses de ce monde, éphémères, inutiles, qui passent, qui ne sont pas éternelles, mais dans le Christ, qui qui, lui, est éternel. Et pour donner une petite image, c'est comme lorsqu'on était au culte de clôture, donc on a eu un culte qui finalisait un peu notre année à l'Institut, et puis notre responsable de la première année, il attribuait des attributs à chacun. C'était un petit mot. Personnellement, j'ai oublié le mien, mais c'était un peu le truc. Et par exemple, Laura a eu le mot « rayonnante », si je ne me trompe pas. Et en fait, j'étais fier d'elle. J'étais fier que Laura ait ce mot-là. Elle est rayonnante, rayonnante par sa personnalité, par ses actes, par son témoignage, par sa bonté. J'étais fier de me dire « Ah, c'est ma femme !» Ben, je suis convaincu que Paul espérait que les Philippiens pourraient vivre une fierté rayonnante en leur Seigneur. Rayonnante comme ça. Par exemple, on parle du Seigneur. Oh, c'est mon Seigneur. On parle de lui. Je l'aime. Nous sommes fiers de notre Seigneur. Nous n'avons pas honte, comme je l'ai dit, de son nom. Il mérite il mérite toute notre fierté. Le choix de Paul était donc à la gloire de Christ. Pas la sienne, mais ni celle des Philippiens, mais celle de Christ. Soyons donc fiers de notre Seigneur comme Paul l'espérait pour les Philippiens, à la gloire de Dieu. J'aimerais maintenant conclure en disant, et en faisant un micro-résumé de ce que nous avons vu, on a pu voir que Paul était donc prêt à rester sur terre, je l'ai dit à de nombreuses reprises, pour les Philippiens, par nécessité, parce que c'est nécessaire pour leur bien finalement, afin qu'ils progressent, qu'ils mettent leur joie en Jésus, à la gloire de Dieu. Donc son ministère a fait finalement qu'un seul but, malgré cette ascension, malgré ce tiraillement, on repense à l'arc tendu. Je ne sais pas si certains ont fait du tir à l'arc, mais c'est quand même pas rien de tirer une flèche, ça demande un peu de force, quoi. Mais son ministère n'avait qu'un seul but, que Christ soit glorifié dans la vie de ses frères et sœurs. Que Christ soit le centre de leur intention. La vie et les choix de vie de l'apôtre Paul nous invitent donc à réfléchir à nos propres choix, à nos propres priorités dans la vie. C'est pourquoi j'aimerais terminer en nous posant quelques questions. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie ici-bas? Est-ce que Jésus est l'objet principal de tes pensées? C'est difficile d'être fier en quelqu'un si on ne pense jamais à lui. De quoi es-tu le plus fier ici-bas? Plus que tes enfants, tes réalisations personnelles, tes possessions matérielles, ça peut être nos études aussi, notre travail. De quoi est-ce qu'on est le plus fier? Comment est-ce qu'on contribue nous aussi à la maturité des autres? Comment est-ce qu'on pourrait augmenter la joie et la fierté des autres en Jésus? Paul, prêcher la parole par exemple, mais comment on peut faire? Témoigner, des choses auxquelles on peut réfléchir. J'espère en tout cas que ces dernières questions peuvent nous amener à réfléchir à la façon dont nous pouvons faire, nous aussi, grandir cette joie en Jésus, dans les autres. C'est sûr, c'est que Jésus qui est l'objet de la joie. Mais comment nous, en tant qu'intermédiaires, comment est-ce qu'on peut faire? Et aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre joie en Jésus grandisse? Franchement, une chose entre nous, qu'est-ce que j'aimerais directement être avec Christ au ciel? Si on me demandait maintenant, je saute, quoi. Je vais dans l'avion et je vais... Bon, ça se passe pas comme ça, mais... pas tout à fait. Mais... Ouais, je pense... Ouais, on signe beaucoup. Mais on sait aussi une chose, que comme Paul, pour l'instant, en attendant que nous rejoignions notre maître, qu'il vienne nous chercher, on sait qu'il peut nous utiliser malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, à sa gloire, en faisant un travail fructueux parmi les autres. On sait qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de Christ, autant pour la joie de ceux qui nous entourent que notre propre joie dans le Seigneur, à sa gloire. Amen.